Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est violent, l'exclamation est devenue courante, notamment chez les jeunes. Notre société, au dire de nombre de spécialistes, deviendrait de plus en plus violente et les couples et les familles n'y échapperaient pas. Alors, comme à Radio Présence, nous vous souhaitons le meilleur, de verts pâturages et des eaux paisibles, comme le dit le psaume, cette émission pour tenter de nommer, de juguler, de canaliser la violence et ce qu'elle engendre. Vite coupe, vite famille, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, l'un de nos nombreux rendez-vous, qui n'est pas spécialement régulier, mais voilà, on se retrouve de temps à autre avec vous, Marie Binet, vous êtes conseillère conjugale et familiale, sexologue et auteure de multiples ouvrages, dont le dernier apparaître ou récemment paru, Pour le meilleur, paru aux éditions des Béatitudes. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bernard Coulot, vous êtes psychologue, thérapeute familial, expert auprès de la Cour d'appel de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors ce matin, donc vite coup, vite famille, avec trois, on va dire un sous-thème, comme à chaque fois, vous avez choisi peur, résistance, violence. On va en fait les aborder dans un autre sens. On va parler de la violence, des peurs et après des changements et des résistances pour essayer d'en sortir. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en parler? Allez, honneur aux dames, Marie-Aude Binet. Marie Binet.
Alors, en fait, bah parce que comme vous venez de le dire, c'est un thème qu'on a beaucoup abordé à l'occasion des confinements, puisqu'on a parlé beaucoup des violences conjugales, on a parlé de la maltraitance infantile, et puis bien sûr, dernièrement, avec le rapport de la CIAZ, les violences sexuelles vis-à-vis des enfants, mais bon, qui existent aussi vis-à-vis des adultes. Et du coup, ce contexte de violence, d'agressivité, de trauma, je pense qu'il était nécessaire de peut-être refaire un point pour distinguer les différentes notions, de manière à ne pas faire non plus un trop grand amalgame. Et puis aussi peut-être sans nier la réalité qui peut être dramatique et douloureuse, dédramatiser aussi certaines situations. Parce que finalement, comme on met tout dans un même panier, on n'arrive plus à distinguer ce qui est de l'ordre de la nature humaine et ce qui est de l'ordre de la régulation sociale, régulation familiale, de ce qui doit être appris, de ce qui est peut-être inné aussi. Voilà, donc je pense que avec Bernard, on avait envie de faire un peu un point et de voir aussi comment fonctionne notre cerveau, puisque dans notre nature humaine, avoir peur, c'est nécessaire. La violence, elle fait partie de nos systèmes de régulation aussi face au danger. Enfin voilà, donc je dirais de remettre un petit peu chaque chose à sa place.
Alors comme, je vais vous donner la parole Bernard, mais comme à chaque fois, l'idée, sans trahir le secret professionnel, c'est aussi de partir un peu des choses vues et entendues. J'ai lu que l'ONU avait écrit ou déclaré qu'il y avait eu plus 30% de violence dans le cadre des couples, donc de la vie de couple, à l'occasion de l'année passée et des différents confinements en France. Est-ce que c'est à peu près raccord à ce que vous avez pu vivre, Marie-Aude, dans votre cabinet ou voir?
Oui, il y a eu...
30%, c'est quand même énorme.
Alors, c'est énorme. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de violence, d'agressivité verbale, parce qu'il y avait une grande difficulté à vivre l'un sur l'autre. Et après, ça a débordé à certains moments sur de la violence physique ou sur des phénomènes de rejet, d'exclusion, de départ subi. La violence, elle peut être sous différentes formes. Hein. Et puis après, il y a eu d'autres formes de violence qui ont été sociétales. C'est le fait d'être coupé de sa famille, le fait de ne pas pouvoir travailler. Il y a eu une accumulation de violence, en fait. Hein. Le fait de ne pas pouvoir aller à l'école, pour certains enfants, ça a été très compliqué. Donc voilà, il y a eu plus le retour d'ados à la maison qui étaient pensionnaires, avec des régulations familiales à mettre en place. Il y a des témoignages vraiment de femmes et d'hommes qui expriment une agressivité ou une violence qui ont en effet émergé ou alors qui ont été amplifiées pendant cette période-là.
Bernard Coulot, si vous deviez compléter ce que Marie-Aude a dit, pourquoi ça vous semblait important d'en parler ?
Réellement, ce qui me semble nécessaire, c'est ce que disait Marie, c'est toute l'importance de reprendre un petit peu ces notions d'agressivité, de violence, qu'est-ce qu'on y met derrière, qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Et ce qui est assez troublant, à mon sens, c'est que même les auteurs, les spécialistes, entre guillemets, que ce soit les anthropologues, les sociologues, les psys, il y a des divergences de vues, finalement, sur ces notions-là. Et je crois, en tout cas, c'était ce qui nous animait ce matin à tous les deux, tous les trois, sûrement, de reprendre un petit peu ces concepts, ces notions, voir ce qu'on y met derrière, comment on peut mieux comprendre l'évolution de notre civilisation, de notre société, au regard de ces agressions, de ces violences dont on nous parle tant finalement dans nos journaux télévisés, dans les articles que l'on lit, etc.
Alors, si on devait faire, on n'a pas prétention à faire de la sociologie, mais on essaye de partir justement du large pour arriver au particulier. On a l'habitude de dire donc la société française est de plus en plus violente. Alors bon, j'ai cherché des choses et j'avoue que j'ai trouvé des choses en partie contradictoires. J'ai trouvé entre autres dans le Figaro Vox donc une interview d'Alain Boer, qui est donc ce criminologue fort connu au Conservatoire national des arts et métiers, qui laisse entendre que de fait la société française, si elle s'est pacifiée depuis le XVIe siècle, depuis François Ier, elle deviendrait de plus en plus violente depuis les années 70 ou 90. On peut trouver aussi des déclarations du président de la République. Il y a eu cette fameuse polémique autour de l'ensauvagement de la société. Emmanuel Macron qui pointe entre autres, lui, les réseaux sociaux. C'était sur CNews. C'était en juin dernier. On vit dans un monde qui n'est pas simplement cette rue où je vois vos visages, où on se parle, on se respecte, mais à la seconde d'après, on va rentrer sur nos réseaux sociaux où quelqu'un avec un pseudonyme va me dire des pires horreurs. Donc, en ligne de mire, c'était les réseaux sociaux. Alors vous, Binet, qu'est-ce que vous direz là-dessus ? Et puis surtout, pour ce qui concerne la vie de couple ou vie de famille, à votre avis, est-ce qu'il y a de fait une violence croissante ou pas ?
Alors je pense que pour les jeunes, il y a une violence croissante, c'est évident, et en effet qui est très bien entretenue par les réseaux sociaux, puisque l'écran permet de dire un certain nombre de choses, donc des insultes, de faire du harcèlement, entre guillemets ni vu ni connu, ce qui est faux, puisqu'on arrive à retrouver les personnes, mais en tout cas, ça va très vite, ça se fait spontanément.
Aussi par les émoticônes, comme on dit, c'est ça.
Les émoticônes, voilà, on peut exprimer...
Sur ces petits personnages qu'on
tout à fait, puis ils sont tellement nombreux maintenant, les émoticônes, qu'on peut vraiment exprimer beaucoup de choses. Donc, il y a cette violence des réseaux, il y a aussi, je vais reprendre un exemple qui est très concret. Peut-être certains d'entre vous ont vu les affiches du site internet de rencontre Adopte un mec. Et cette affiche est en fait très agressive. D'abord parce qu'il n'y a qu'un seul mot qui apparaît dessus, c'est Adopte, pour parler d'une relation sexuelle ou d'une relation amoureuse, ce qui est déjà assez choquant. On n'adopte pas l'autre. Et ensuite parce que justement cette image elle est quasi pornographique, c'est une image sur fond rouge, donc le rouge est une couleur agressive qui représente le côté torride et passionnel d'une rencontre des corps, et on ne voit que deux visages avec deux bouches qui se rapprochent de manière érotique, avec même une des affiches où il y a un baiser langoureux qui se voit de très près. Cette affiche-là, elle est vue par tout le monde, les enfants comme les adultes.
Oui, parce qu'ils ont, en général, les moyens, donc il n'y a pas de trois abribus.
Esthétiquement, réellement, esthétiquement, ces photos sont magnifiques. Sauf que c'est agressif. Hein, et là, je me dis, en même temps, on est en train de vouloir faire de la prévention en éducation affective et sexuelle pour que les enfants ne voient pas de la pornographie, découvrent l'affectivité, découvrent la pudeur, que la sexualité et l'érotisme des couples soient dans le secret de manière à ce qu'elles se soient respectées. Et en fait, voilà ce que l'on projette en pleine rue aux yeux de tous. Et en fait, c'est agressif et ça va créer une forme de violence intrinsèque pour les gens parce que c'est « je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, mais on me fait croire que je vais rencontrer quelqu'un, que tout de suite ça va être exceptionnel, torride ». Et la réalité, elle n'est pas ça. La réalité, ce n'est pas celle-là. Donc c'est violent en fait pour les personnes. On utilise une anxiété de solitude pour attirer les personnes en dehors de toute considération affective. Il n'y a pas de rencontre des esprits, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Il y a juste adopte avec une image violente comme ça projetée.
Il pourrait mettre adopte une langue, ça serait plus simple. Bernard Coulot, est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence, on se l'était dit aussi en préparant cette émission, une ambivalence dans la société française, c'est-à-dire, entre autres, on peut dire, ce qu'on a l'habitude de lire, je n'ai pas retrouvé le chiffre, mais qu'aujourd'hui on arrive à 18 ans en ayant vu des milliers de morts à la télé ou sur Internet, quand en plus on est sur des jeux vidéo, même si c'est des morts virtuelles à chaque fois. Hein. Et en même temps, tout un mouvement qui tend à favoriser le zen, la paix, la quiétude, le dialogue, l'écoute, voilà, il y a une espèce de quoi.
Oui, il y a des ambiguïtés ou des ambivalences, effectivement, mais même sur les termes d'agressivité, de violence, on finit par les considérer comme synonymes. Or, je crois qu'ils ne sont pas synonymes. Il faut sûrement faire un effort de distinction entre ces deux notions. Aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est dans notre pays, dans notre civilisation, une sorte de valorisation de l'agressivité. C'est-à-dire que quand on écoute des sportifs, il n'est pas rare d'entendre des sportifs dire « j'ai manqué d'agressivité, j'ai perdu le match de tennis » ou bien dans le rugby, pareil, « nous avons mal géré notre agressivité ». J'entends parfois des parents dans mon cabinet qui me disent « je vous amène mon fils ou ma fille parce que elle se fait malmener dans la cour de récréation, il faudrait développer son agressivité, etc. etc. » Et tout à l'heure, on l'évoquait au travers de cette pub qu'évoquait Marie, dans le langage publicitaire, il n'est pas rare d'entendre parler un publicitaire ou un publiciste dire « nous avons mené une campagne agressive ». C'est-à-dire que l'idée que dans notre pays, dans notre civilisation, l'agressivité aujourd'hui, elle est comme valorisée.
Alors, quelle distinction vous faites entre agressivité et violence ? Et puis, c'est le moment de parler de cette violence fondamentale qui serait propre à chaque vie, voire même nécessaire à la vie, selon un auteur que vous souhaitez citer, qui s'appelle Jean Bergeret.
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu difficile à admettre. Pour juste clore sur ce que je disais avant, dans notre civilisation aujourd'hui, on valorise l'agressivité et on dénonce la violence, les violences. On parle des violences conjugales et on fait bien d'en parler. On parle des violences dans les stades, violences routières, violences dans les quartiers, etc. Et on valorise l'agressivité. Bergeret, Jean Bergeret, qui est un psychiatre psychanalyste, prend un peu à contre-pied cette idée. Et ça m'intéresse pas mal en tant qu'expert, parce que, en tant qu'expert, je suis amené, bien évidemment, à intervenir quand l'agressivité a été au point du passage à l'acte et de commettre des choses plutôt horribles. Bergeret nous dit...
Donc Bergeret, qui est donc, on va dire, un grand nom de la recherche aussi en matière de psychanalyse. Hein.
C'est ça, absolument.
C'est un psychanalyste, mais c'est un psychanalyste qui a compté.
C'est ça. Alors, il est un peu choquant, cette notion de violence fondamentale. C'est l'idée que la violence, elle serait en l'homme, en l'être humain, dès l'enfance, dès le premier jour de la vie, parce que Bergeret nous rappelle que la naissance... C'est violent pour la mère, certes, mais la maman, elle donne la vie, elle sait ce qui se passe. Le nourrisson, lui, il vient au monde sans avoir dans ses capacités intellectuelles la compréhension de qu'est-ce qu'il vit. Or, Bergeret dit, c'est violent dès le premier instant, et il faut que l'être humain ait en lui cette violence fondamentale dans le sens d'une violence heureuse, d'une violence utile, je dirais, une violence qui permet finalement la survie, qui permet de vivre et de survivre, de faire sa place dans le lien à la mère, dans le lien au père, dans le lien avec les frères et sœurs, dans la fratrie.
Donc c'est quoi, c'est une pulsion de vie,
oui,
contre la mort, quelque
c'est
part
ça, c'est ça, une pulsion de vie contre la mort, effectivement, parce que le nourrisson est exposé à la mort. Il sait très bien que si maman et papa sont pas là pour me nourrir, je suis exposé à la mort. Et effectivement, cette violence fondamentale développée par Bergeret, c'est l'idée que c'est un instinct de vie heureux. Mais par contre, cette violence fondamentale, on pourrait dire qu'elle est plutôt primaire, brute, entre guillemets, et qu'il faut l'éduquer. Et c'est là toute l'importance de l'éducation, tant dans le domaine ou dans le cadre familial, les parents, les grands-parents, mais aussi le cadre scolaire, le cadre sportif, le cadre de l'Église, tous ces adultes finalement qui peuvent permettre à l'enfant de cadrer, de canaliser, de sublimer, on pourrait dire, cette violence fondamentale pour en faire une énergie de vie au service des relations humaines, au service du lien à l'autre.
Marie Binet, est-ce que ça fait écho à certaines de vos lectures? Est-ce que vous aviez entendu parler de Jean Bergeret? Qu'est-ce que ça
bien
vous évoque?
Oui, bien sûr. Et pour reprendre un peu l'image que vous preniez de toutes ces...
Jean Bergeret qui était un résistant aussi, hein? Voilà.
Tout à fait.
Il a combattu pour la Seconde Guerre mondiale. Il écrivait dans la revue Combat. Bref, le combat.
En fait, c'est un courant dans la psychologie qui s'est mis en place, hein, sur toutes les, je dirais, les 20 dernières années, de retravailler sur cette notion de violence, sur ce qu'elle veut dire et comment justement la canaliser. Et ce dont vous parliez sur les philosophies zen, sur etc. C'est aussi ça, c'est de se dire j'ai une énergie en moi. Souvent, je prends la colère. La colère, elle est normale, elle est innée et on en a besoin puisqu'elle nous permet d'aller en avant. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc cette même énergie, on peut l'utiliser pour être agressif ou violent, mais on peut l'utiliser aussi pour être dans une action positive et bonne. C'est un choix, et ce choix-là, ben, on l'éduque en fait, on éduque l'enfant à poser un choix. Qu'est-ce que je fais de cette colère qui est en moi? Je vais mettre ce mot parce qu'il est beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Cette colère en moi, j'en fais quoi? Contre l'autre ou pour ma vie, pour mon bien, pour le bien de l'autre? Et ça, ça s'éduque, en fait. Et à l'âge adulte, bah, on n'est pas fini d'éduquer, comme je dis toujours. En tant qu'adulte, on continue de s'éduquer en permanence. Et on est tout le temps à devoir se reposer. Qu'est-ce que je fais de ma colère? Est-ce que je fais ça pour de la destruction? Ou est-ce que je fais ça pour construire? Et ça, c'est toute la vie.
J'ai trouvé un rappeur qui s'appelle Gaël Faye, qui est d'origine rwandaise, chanteur franco-rwandais. Qui connaît un certain succès, qui a vu, je crois, massacrer ses parents, si je ne me trompe pas. Alors, il a une très belle phrase dans un entretien que j'ai trouvé. Il n'y a pas de grande tendresse sans grande révolte. Qu'est-ce que ça vous évoque, peut-être l'un et l'autre, Marie Binet? Il n'y a pas de grande tendresse sans grande révolte.
Alors, je vais peut-être être un peu aussi choquante, mais quelque part, pour pouvoir rencontrer l'autre, quelquefois, il est nécessaire de se faire violence ou de provoquer la rencontre. Donc ça peut être un peu brutal, ça peut être maladroit, ça peut... Et ça même en intrafamilial, il y a des enfants qui n'arrivent pas à aller vers l'autre de manière apaisée, et c'est pas forcément, entre guillemets, de la faute des parents, c'est dans sa façon à lui d'appréhender le monde. Et on peut être dans... je dirais même, quand je reprends cette pulsion de vie, la pulsion sexuelle est une pulsion un peu violente. Si on n'a pas cette pulsion-là, on ne va pas vers l'autre, il faut être très clair. Donc il y a, et en même temps, on va enrober, on va apprendre à y aller avec de la douceur, avec de la tendresse, avec de la délicatesse, parce qu'on apprend à prendre en considération nos sensibilités. Voilà, c'est tout le développement du savoir-être et d'aller en relation avec l'autre. Mais il y a un mouvement qui est, au départ, un mouvement de révolte, en tout cas une forme d'agressivité qui n'est pas agression. C'est là la différence à faire, en fait.
Je précise son propos. Gaël Faye, il cite un certain René Depestre, je ne sais pas qui c'est, il dit que c'est son maître d'espérance. Cet homme disait, et Gaël Faye aussi, il disait que l'homme doit osciller entre la tendresse et la révolte. Il n'y a pas de grande tendresse sans grande révolte. Lorsqu'on est révolté avec de la haine, on court à son propre péril. Il ne peut donc y avoir des révoltes pleines, que des révoltes pleines de tendresse. Bernard Coulot.
Oui, disons que ce qu'il y a d'intéressant dans cette deuxième citation, c'est la distinction qu'il fait entre la révolte du côté de la haine, et là, effectivement, il y a problème quand la révolte, elle est du côté de la haine, mais il a l'air de dire, Gabriel Faye, c'est ça, qu'il peut y avoir la révolte du côté de la tendresse. Et effectivement, ça évoque le choix que disait Marie tout à l'heure, même si c'est un choix qui n'est pas sûrement de l'ordre intellectuel, mais davantage au niveau affectif, émotionnel, pulsionnel. Et des fois, on est débordé par nos affects, nos émotions, notre pulsion. Et c'est toute la nécessité que nous évoquions tout à l'heure de parvenir à gérer nos affects, nos émotions, cadrer, canaliser cette énergie de vie du côté de la tendresse plutôt que du côté de la haine. C'est ce que disait Gaël Faye.
Allez, on fait une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de violence, peur et autres et comment les traverser et choisir la vie.
Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme sous-titre violence, peur et résistance. Et nous sommes avec Marie Binet, qui est conseillère conjugale et familiale, sexologue et auteur, pour son dernier ouvrage en tout cas, de Pour le meilleur, paru aux éditions des Béatitudes, et Bernard Coulot, psychologue, thérapeute familial, expert auprès de la Cour d'appel de Toulouse. Alors, les peurs maintenant, ce que j'entends dans votre propos, c'est qu'après avoir posé ce constat de la violence qui est là, qui est trop présente et qui en même temps fait partie de la vie. Maintenant, tout l'enjeu est que ça ne soit pas un obstacle à la relation avec soi ou avec les autres. Bernard, vous vouliez nous parler des peurs. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que vous me disiez, on peut avoir peur d'être soi-même violent, on peut avoir peur de ses émotions, et puis on peut avoir peur tout simplement des autres. Précisez peut-être votre propos.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans une société et une civilisation où il est clair, il y a diverses formes de violence et d'agression, moi je crois que la peur est légitime. et qu'il faut l'entendre en soi. Bien évidemment, la peur de l'autre et des autres qui peuvent peut-être être débordés par leur agressivité et du coup devenir agressifs à mon encontre. Donc il est logique que j'ai des peurs. Et je crois qu'il est important d'accueillir cet affect, cette émotion en soi, de la considérer et d'essayer de faire en sorte que je m'écarte ou que je gère ma peur de manière à peut-être ne pas subir une forme d'agression ou de violence.
Il y a un peu deux choses dans ce que vous dites. Il y a aussi, on va dire, il y a les circonstances. Mm-hmm. Et puis, si on reprend votre premier propos, qui est cette violence fondamentale, on peut aussi avoir peur de cette violence en soi.
Bien sûr.
Avec en plus ces injonctions contradictoires de la société qui à la fois vous poussent à l'agressivité et en même temps, il faut être toujours un gentil garçon. C'est...
Absolument. C'est à la fois, certes, pourquoi pas, la peur des autres, la peur de l'autre, mais aussi la peur de ne pas parvenir moi-même à gérer mon agressivité, ma violence, mes pulsions, mes affects, ma haine. Je crois que c'est chacun de nous qui est convoqué finalement à chaque instant à gérer nos émotions, nos affects, nos peurs.
Alors comment est-ce que vous aidez vos patients ou qu'est-ce que vous pourriez conseiller quant à la gestion justement de cette violence ou cette manière de traverser ces peurs, comment les traverser de manière juste?
Alors moi je crois que pour les traverser, d'abord, il faut l'entendre en soi. J'aime bien de plus en plus entendre des enfants qui me racontent qu'au CP ou au CE1, la maîtresse, le maître, les a fait travailler sur les émotions, toutes les émotions. Que ce soit celles que l'on pourrait dire belles, la joie, le plaisir, etc. Mais aussi la colère, comme l'évoquait Marie tout à l'heure, la haine, pourquoi pas. Je crois que l'être humain, et même dès l'enfance, l'être humain est amené à vivre toute cette palette des émotions. Et je crois, moi, que l'important, c'est de l'entendre en soi, le reconnaître en soi, le recueillir en soi, et en même temps, si possible, d'arriver à les parler, les verbaliser, mettre des mots sur tous ces affects, toutes ces émotions-là, pour pouvoir être entendu par l'autre. Et je crois que le premier moyen sûrement de gérer tout cela, c'est d'arriver à le mettre en mots, M-O-T-S, pour éviter les mots M-A-U-X.
Alors, je me suis trouvé un article que je vous ai fait suivre d'un certain Philippe Breton, sociologue. La parole doit nous aider à faire reculer la violence entre nous. Il était interrogé récemment, je crois, oui c'est ça, c'était en septembre dernier par le journal La Croix, à propos entre autres de cette situation en général bien difficile dans laquelle on est, où à l'occasion de cette pandémie, on a pu avoir des débats en famille sur la gestion de la crise sanitaire par les autorités, la question des vaccins, etc. Donc cette difficulté au cœur de cette crise d'arriver à s'entendre et à se comprendre. Il distinguait déjà trois ordres de la parole, informatif, affectif et opinion. Est-ce que vous voulez peut-être vous arrêter là-dessus ou qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cet article ?
Oui, j'ai trouvé très intéressant l'idée de favoriser la parole. Quand on dit la parole, c'est l'expression, la verbalisation, comme je le disais tout à l'heure. Et cet auteur-là, Philippe Breton, distingue quand on s'exprime trois niveaux, comme vous le repreniez, l'ordre informatif, affectif et opinion. Et je crois que c'est plutôt intéressant, quand on s'exprime, de distinguer un petit peu ces trois niveaux. Ce qui me paraît intéressant dans ce qu'il raconte aussi, c'est certes toute l'importance, il dit, l'éloge de la parole, c'est aussi l'éloge de l'écoute. Et je crois que quand on veut réellement être dans un dialogue avec l'autre, il me semble que en grec, dialoguer, c'est logos, c'est la parole, dia, à deux, c'est parvenir à une conversation. Et la conversation,
ne
c'est...
Ne pas chercher à convaincre.
Oui, c'est l'écoute d'abord. Et ça me plaît bien un proverbe grec, je crois, qui disait « Nous avons deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que nous ne parlons. » Et je crois que nous écoutons trop peu. Nous parlons peut-être beaucoup, et notamment dans tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, peut-être que nous n'écoutons pas assez.
Ou nous ne posons pas assez de questions. J'ai bien aimé ce passage. Ouais. Il disait Socrate avait une curieuse méthode pour entrer en dialogue. Il n'argumentait pas, il écoutait les gens et il les questionnait.
Oui, tout à fait.
Voilà. Bon, là, je tire un peu la couverture à moi, mais il y a des choses qui vous ont moins plu là-dedans. Vous disiez que la parole, oui, mais que ce n'était pas forcément une fin en soi, c'est-à-dire
Oui, c'est-à-dire que je crois que c'est très important ce que dit Philippe Breton de s'exprimer, de parler vrai, de parler juste avec soi, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il est essentiel, mais il le dit aussi, d'écouter. Et ce que je crois, et vous le disiez tout à l'heure, je ne sais plus si c'était à l'antenne ou hors antenne, l'idée d'avoir des conversations, que ce soit sur le plan conjugal, à deux, et très souvent on n'en prend pas le temps de s'arrêter, de se poser et d'avoir une vraie conversation à deux, d'avoir des conversations avec nos enfants, avec nos adolescents, avec nos parents quand on les a encore. Je crois que c'est essentiel de se poser,
donc
de prendre le temps de converser.
Vous préférez le mot conversation à parole ?
Oui, c'est ça.
Parce que ça veut dire qu'elles sont, elles sont plus liées. Et conversation plus que dialogue, ou c'est...
Disons que pour moi, dialogue et conversation, c'est l'idée d'avoir un échange à deux et d'un échange vrai. Mais pour ça, il faut écouter l'autre. Et même si ce que l'autre dit me déstabilise, me dérange, il n'a pas le même avis. Je crois que c'est fort. Il faut que je sois capable aussi d'exprimer mon avis différent. Ça peut générer des conflits, mais pour moi, le conflit est heureux s'il y a le respect de la divergence de vues.
Déjà beaucoup de choses à apprendre, donc à entendre ses peurs, à savoir les nommer, à savoir les verbaliser, à entrer en conversation et à accepter que dans les conversations, il y ait comme l'habitude en fait aussi de conversations et de dialogues où on passe à travers les désaccords, où on en fait des richesses et pas des lieux de rupture. Mmh. Ça fait déjà pas mal de pistes. Vous, Mario de Binet, vous vouliez nous parler davantage des phobies et de l'anxiété, qui sont aussi des formes de peur. Pourquoi vous y teniez peut-être pour commencer ?
Alors pareil, si je reprends à la dernière période, en fait, c'est une période qui a quand même suscité beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Alors il y a une différence entre les deux. L'anxiété est un peu comme le lit d'une rivière, c'est quelque chose qui s'est installé depuis longtemps. Il y a des personnes qui sont plutôt de nature anxieuse, c'est-à-dire qui vont avoir des peurs. Et en fait, l'anxiété est une alerte d'un sentiment d'insécurité installé depuis très longtemps et qui est assez profond. L'insécurité, elle peut être affective, elle peut être psychique, elle peut être matérielle. En tout cas, ça lié à l'histoire souvent de la personne et même ça peut être transgénérationnel. Il y a des familles anxieuses. On se transmet cette anxiété de génération en génération. L'angoisse est plus rattachée à des événements particuliers et avec une peur du vide. Donc, par exemple, l'angoisse d'abandon, le fait de se retrouver seul, l'angoisse de la solitude. Donc, c'est une angoisse qui va se manifester avec physiquement des difficultés, par exemple, à respirer, une transpiration, etc. Et puis, il y a un stress. Aujourd'hui, on est tous de nature stressés. Le stress est bon pour nous. Notre cerveau fabrique ce stress pour nous permettre, justement, de réagir.
Ça s'appelle comment, le stress ?
C'est le cortisol.
Cortisol.
Voilà. Et donc ça, mais par contre, là où le stress devient néfaste, c'est lorsqu'il est trop important. C'est ce qu'on appelle sentir une pression. Cette pression va, au contraire, qu'on va sécréter trop de cortisol et là on sait qu'il y a des problèmes physiques, notamment cardiaques, etc. et au niveau des glandes surrénales derrière, donc là c'est problématique. Mais en tout cas tous ces ressentis sont naturels, par contre ils vont être dosés de manière différente suivant l'histoire de chacun. Alors, et suivant la personnalité aussi.
Naturel, ça veut dire quoi, Mario? Ça veut dire que y a pas de mal à ce qu'on ait tous un peu d'anxiété, il faut juste apprendre à la maîtriser, c'est ça ?
Mais la peur fait partie, comme la colère, de ce qui intrinsèquement nous permet de vivre dans notre milieu. Si on n'avait pas peur, on ne réagirait pas face à la violence de quelqu'un. Alors par contre, le problème, c'est quand j'ai dans mon cabinet des couples dans lesquels les conjoints disent « j'ai peur de rentrer chez moi ». Ça, c'est problématique. Ou j'ai peur de parler à l'autre parce que je vais me faire taper dessus, je vais me faire engueuler. Je prends une caricature, mais quand une femme a embouti la voiture et qu'elle dit « j'ose pas en parler à mon conjoint parce que ça va être un drame », ou qu'un enfant dit « je peux pas dire que j'ai eu une mauvaise note à mes parents, sinon ça va être l'horreur ». Enfin bon, Voilà, il y a des peurs ou des anxiétés qui s'installent, qui sont problématiques.
Quand est-ce que ça devient un trouble anxieux ? Dans un article que j'ai trouvé, c'était disproportionné, trop intense, qui se prolonge et devient incontrôlable.
Alors, je prends un autre exemple, des personnes qui... Je prends une femme qui ne pouvait pas vider son garage, elle ne pouvait pas le ranger, c'était impossible pour elle. Elle avait accumulé depuis des années, elle ne pouvait rien jeter, ni ses tissus, ni ses objets d'enfant, ni ses cahiers scolaires depuis... universitaire, etc. Elle pouvait rien. Et donc, c'était une anxiété pas possible. Enfin, c'était insupportable pour elle. Et en creusant, on s'est rendu compte qu'en fait, sa grand-mère avait été dans l'Est au moment de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait dû tout abandonner. Elle était sur les routes. Elle a dû tout lâcher. Sa mère était petite à ce moment-là. Et du coup, ça a créé une anxiété transgénérationnelle. Attention, on peut tout perdre. Voilà. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'elle portait malgré elle. Donc j'ai pu l'accompagner pour qu'elle puisse guérir de cette anxiété-là qui n'était pas la sienne, mais qu'elle portait. Et elle a pu faire ce travail de tri, en fait, dans sa propre vie. Et du coup, affronter une forme de vide, de dépossession, en voyant qu'en fait, elle ne perdait pas tout non plus.
Voilà. Donc ça, c'est des troubles d'anxiété, on va dire, prononcés,
ouais.
Qui ont des causes un peu traumatiques. Donc il faut les affronter et arriver à les nommer.
Tout à fait.
Si on prend l'anxiété comme, entre guillemets, fond de roulement, qui est accentué par ce qu'on décrivait au début de l'émission, sans
l'anxiété,
vouloir être un peu des vieux schnocks qui voient
l'anxiété, c'est la peur de perdre son travail. Voilà, si je perds mon travail, qu'est-ce que je vais devenir ? Je perds ma place dans la société, je vais avoir moins d'argent, etc. Ça va être l'anxiété de ne pas pouvoir... Il y a des jeunes là, qui ont été dans une anxiété de ne pas pouvoir trouver des études parce qu'ils ne pouvaient pas faire de stage, parce qu'aucun patron ne voulait les prendre, par exemple.
Alors, est-ce qu'il y a des grands trucs de psy, j'ai envie de dire, pour traverser ces violences extérieures qui nous rendent un petit peu... Enfin, qui génèrent de l'anxiété ?
Alors, je reviens à ce que disait Bernard tout à l'heure, ça va être l'écoute et la parole, c'est-à-dire que ces personnes trouvent des lieux d'écoute. Alors, quelquefois, ce n'est pas forcément la famille, parce que dans la famille, et ça peut être une forme d'un peu de violence, ça va être du dénigrement. Mais non, mais ce n'est pas grave, t'inquiète pas, tu t'inquiètes trop, tu t'en fais trop, tu dramatises, etc. Donc, il n'y a pas l'écoute. Donc, il y a besoin souvent de lieux un peu plus neutres. Donc, c'est vrai, c'est plus des lieux de thérapie.
Mais vous entendre quand même, pardon trop de vous couper, mais il aurait fallu presque faire ça dans les écoles, alors ? Après avoir vécu cette expérience qui a quand même été assez traumatique ou assez violente, moi j'ai lu aucun article qui laissait entendre qu'on avait pris pour commencer une journée de relecture avec les élèves pour essayer de voir comment ils l'ont vécu, cette absence d'école,
oui.
etc. etc.
Et en fait, il y aurait eu besoin aussi dans les entreprises, il y aurait eu besoin dans les universités, en effet, de lieux d'écoute pour que les personnes puissent exprimer ce qu'elles ont pu vivre et l'angoisse que ça recommence. Parce qu'il y a l'anxiété, puis après, il y a l'angoisse que ça recommence. Avec, je suis pendue au fil d'actualité, sur mon téléphone ou à la télé, au cas où. Donc là, on est en train de dire que les chiffres remontent. Qu'est-ce que ça produit dans la tête des personnes, des enfants comme des adultes ? Dans certains départements, à partir de lundi prochain, des enfants vont devoir remettre le masque alors qu'ils l'ont lâché il y a un mois. Enfin, ce sont des conditions qui sont extrêmement complexes. Et en effet, quels sont les adultes référents qui peuvent écouter et répondre. Donc il y a besoin des deux.
Voilà, l'anxiété qui, dans un article là, que je vous ai fait suivre, quand même concernerait une bonne partie de la population française. Il y aurait comme un fond de roulement d'anxiété, on le sait, on le lit souvent. Et en tout cas, tout le monde qui dans sa vie un jour n'a pas vécu quand même une anxiété assez forte. Donc à vous entendre, en fait, la manière, pour reprendre un peu le fil de notre émission, de faire face à la violence et de gérer peur, anxiété et autres, c'est toujours la parole en fait.
Tant que ça ne sort pas...
Sur une radio comme la nôtre, ça va pas nous défriser, mais...
Alors, une parole qui peut se poser dans un endroit adapté, avec des personnes qui peuvent être à l'écoute de cette parole, parce que tout le monde ne peut pas entendre. Voilà, tout le monde ne peut pas l'entendre. Et ça, il faut aussi le respecter. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas arriver à répondre, parce que ça peut être très compliqué d'entendre certaines paroles. Notamment par exemple dans le cadre, là j'ai une personne qui me témoignait, une de ses meilleures amies l'avait appelée un jour en disant j'ai été violée par mon père quand j'avais 5 ans et elle m'a dit mais je savais pas quoi répondre parce que en fait ça a été violent pour elle de l'entendre ça et elle me dit je me suis sentie démunie et je lui dis écoute faudrait peut-être que tu ailles en parler à un psychologue mais elle m'a dit ma réponse était complètement insatisfaisante mais là j'étais démunie donc voilà c'est de se dire choisir les lieux, les personnes et puis faire ce travail de conscientisation et puis après de guérison, je dirais.
Vous vouliez ajouter quelque chose? On fait une deuxième pause?
Non,
point de salut
juste,
en dehors de la parole?
Oui, ce que disait Marie évoque un texte que j'aime bien, que j'avais trouvé il y a quelques années, qui est écrit, semble-t-il, par un auteur anonyme indien. Ce texte s'appelle « Peux-tu simplement écouter ?» Et ce que disait Marie me plaît beaucoup, c'est que on n'est pas toujours prêt à écouter. On n'est pas toujours prêt à entendre. Pas toujours en capacité d'écouter, là, dans ce que disait Marie, une amie qui dit « j'ai été violée quand j'avais 5 ans », c'est tellement, tellement horrible et tellement abominable que parfois on ne peut pas arriver à entendre et écouter une telle parole. Et pourtant, je crois qu'il faudrait. Mais des fois, en tant qu'ami, on n'y parvient pas. En tant que psy, sûrement que c'est notre mission, notre job. Mais je dois dire que parfois, il m'arrive, en tant que psy ou en tant qu'expert, d'être exposé, je dirais, à des situations où j'ai moi-même du mal à écouter et à entendre ce que l'autre me dit.
Allez, on fait une deuxième pause et puis on va continuer de tirer le fil de cette manière d'arriver à gérer toute la violence qui fait partie de la vie, de nos vies ou du contexte actuel.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite coup, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, au programme de cette émission, plus particulièrement la violence et tout ce qu'elle engendre et les manières d'y faire face. Avec nous, Marie Binet, conseillère conjugale et familiale, sexologue, et Bernard Coulot, psychologue, thérapeute familial. Alors, vous vouliez à la fin de cette émission aussi parler de nos résistances et nos difficultés à changer. Violence, peur et résistance. Allez, on va commencer avec vous, Marie Binet. Les résistances, pas de surprise, vous me direz, mais je vais vous laisser peut-être prendre un exemple pour vous aider à comprendre pourquoi vous vouliez le préciser et puis quel fil vous voulez tirer derrière. Vous parlez des blessures et des traumatismes. Ce qu'on entend, c'est qu'après, peut-être, tout ce qu'on a dit, cette manière d'arriver à prendre conscience de ce qui nous traverse en bien et sans, on va dire, sans le juger, d'arriver à le verbaliser et puis à entrer en conversation. Ce que vous rajoutez une couche que vous aviez commencé à peut-être à évoquer avec votre exemple, c'est qu'aussi, on n'a pas toujours beaucoup de... toute la liberté qu'on voudrait, parce que derrière, il y a des racines, on va dire, ou des blessures et des traumatismes. Alors, prenez un exemple pour commencer.
Alors, je vais prendre l'exemple d'une femme qui a perdu sa maman de manière brutale dans un accident de voiture. Or, cette femme était à ce moment-là en voyage scolaire à l'étranger. Donc elle a été prévenue, c'était il y a longtemps, hein, donc les moyens de communication c'était pas comme aujourd'hui.
Elle était adulte ?
Elle était en voyage scolaire, donc elle était adolescente. Et elle a été prévenue 2 jours après le décès de sa mère, par la famille chez qui elle était logée, et avec impossibilité de revenir pour l'enterrement. Attends. Donc, ça fait beaucoup quand même de trauma. Et quand elle est revenue en France, elle avait des frères et sœurs. Et son père n'a rien dit. Il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu de comment ça va, etc. Rien. Personne dans la famille non plus ne l'a accueillie et n'a pris le temps de l'écouter. Et ses frères et sœurs, il y a eu quelques bribes, mais pas grand-chose. Et donc, elle a compris qu'il ne fallait pas parler. Donc, elle a mis ça dans une boîte. Et puis, elle avait grandi avec ça, elle s'est mariée avec ça, elle a eu des enfants avec ça. Et puis, elle passait son temps à être derrière ses enfants, fais pas ci, fais pas ça, arrête, etc. Son conjoint, elle disait, mais lâche les enfants, enfin, c'est pas possible. Elle comprenait pas d'où venait cette anxiété. Et puis, bien sûr, on est revenu sur ce trauma.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez tirer comme fil?
Eh bien, la résistance, il y a eu une forme de résistance intrafamiliale à évoquer les événements, mais en plus, dans l'actualité de sa thérapie, elle a essayé de faire la démarche vis-à-vis de son père pour revenir sur les événements. Elle a repris les faits. Et rien que sur les faits, son père a été dans le déni. Non, c'est pas vrai, on t'a prévenu le plus vite possible, je t'ai eu au téléphone, quand tu es rentrée, ta tante est venue te voir. Enfin, il y a eu un déni total sur ce qu'elle avait pu vivre. Et une résistance qui s'est instaurée chez le père pour lui-même ne pas revivre sa propre souffrance, en fait. Du coup, la souffrance de sa fille n'était pas audible. Et même plusieurs années après.
C'est pas le premier réflexe qu'on a tous face à des grandes violences que de vouloir les enterrer quelque part ?
Ça dépend. Il y a des personnes qui vont au contraire avoir besoin de beaucoup les exprimer. Donc ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'histoire de vie. En tout cas, il y a des résistances. Des résistances, au début, les résistances, elles sont protectrices, hein. C'est parce qu'on ne peut pas affronter. Et c'est ce qui se passe avec l'amnésie traumatique quand on a vécu des violences quand on est enfant. Et c'est nécessaire, parce que sinon, en fait, il y a une implosion dans la tête qui fait qu'on ne pourrait pas vivre. Voilà. Maintenant, il y a un moment besoin, ça crée des blocages. Ça crée des blocages qui psychiques, qui peuvent être très handicapants, invalidants dans la vie adulte après.
Mais alors donc, comment on s'en rend compte quelque part,
c'est... Souvent, ce sont des événements
quand
qui vont réveiller.
Quand on manque de liberté ou alors, dans certaines situations.
Soit on sent qu'on est bloqué soi-même, soit il va y avoir un nouvel événement qui va venir réveiller. Voilà. Et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Ça émerge comme ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui rouvrent la boîte quelquefois à 60, quelquefois à 30. Ça émerge comme ça. Et c'est complexe. Voilà. Après, il y a des résistances qui se font autrement. Il y a des résistances qui peuvent être par orgueil. Je ne veux pas reconnaître les choses. Ça peut être par peur. Ça peut être donc le déni. Ça peut être un peu, quelquefois, une difficulté à affronter ses propres émotions. Donc, si j'écoute l'autre, il va falloir que moi aussi je me dise ça va réveiller quelque chose chez moi. Voilà, il y a plusieurs racines, hein, à la résistance. Mais en tout cas, la résistance psychique fait partie de notre fonctionnement au niveau du cerveau. Et on sait combien notre cerveau n'aime pas le changement. Donc, il fera tout pour ne pas changer.
C'est dit. L'autre chose sur laquelle vous vouliez revenir, c'était vous, Bernard Coulot, justification et déni. Est-ce que vous pouvez commencer par un exemple, peut-être ?
Oui, juste pour reprendre un petit peu sur ce que disait Marie, quand elle dit mettre dans la boîte, c'est ce que les psys, on appelle aussi le refoulement, et que ce soit le refoulement, les résistances, le déni, les justifications, on peut mettre tout cela dans une rubrique qu'on appelle les mécanismes de défense et d'adaptation, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des mécanismes psychiques, inconscients la plupart du temps, qui sont dans un premier temps protecteurs. Si on reprend l'exemple qu'évoquait Marie là juste à l'instant, de cette enfant, adolescente en tout cas, qui a perdu sa mère brutalement, c'est-à-dire tout d'un coup, la mère disparaît parce qu'un accident, et qu'en plus, on n'ait pas pu lui en parler, qu'on n'ait pas pu l'entendre sur ce que ça lui fait, ce deuil brutal. Effectivement, elle met dans la boîte, comme dit Marie, elle met dans le refoulement, et cela, ça pompe une énergie psychique énorme. Et parfois, ça peut ressortir plus tard sous diverses formes.
Alors juste, je vois le temps qui passe, il vous reste pas beaucoup de temps. Justification et déni, prenez l'exemple et expliquez-nous pourquoi vous vouliez vous arrêter.
Ouais, un exemple qui évoque aussi la transmission parfois transgénérationnelle. J'ai en tête l'histoire d'un homme qui a eu un père qui était alcoolique et violent et qui en a souffert. Qui sûrement a refoulé d'une certaine manière ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi, d'avoir été témoin de l'alcoolisme de son père, de la violence à l'égard de sa propre mère, et tout ça en critiquant son père. Il se trouve que le père est décédé il y a un bon moment, mais n'empêche qu'aujourd'hui, et il est sûrement presque incapable de reconnaître qu'il a repris à son propre compte exactement les mêmes travers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est lui-même alcoolique, il est lui-même violent à l'égard de sa compagne, parfois dans ses propos à l'égard de son fils, et il est dans une forme de justification. En me disant dans mon cabinet, quand il vient me voir, je suis violent, je suis agressif parce que ma compagne n'est pas assez affectueuse, n'est pas assez tendre avec moi, tout ça, ce sont des justifications, et c'est aussi du déni parce qu'il dénie jusqu'où la violence peut l'amener, parfois des coups à l'égard de sa compagne, et parfois dans ce qu'on peut appeler aussi l'auto-agressivité, puisqu'il a tenté de mettre fin à ses jours, il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour lui, c'est en ce sens où il est dans du déni, il ne peut pas reconnaître que ça peut aller jusqu'à donner des coups à son épouse. Il le justifie toujours et sans cesse.
Alors ça, c'est, on va dire, un exemple un peu paroxystique quelque part, hein, comme celui de Marie-Aude. Pourquoi vous vouliez attirer notre attention à chacun de nous sur ce sujet et sur ce motif de résistance? Est-ce qu'on aurait tous quelque part ce réflexe aussi de, ce serait une autre boîte que la justification et le déni?
Oui, alors ça, je crois, effectivement, ça rentre
C'est
dans
lié quoi à
ce.
l'image de soi,
Oui, c'est l'humain. L'humain, avec ses mécanismes de défense et d'adaptation, c'est-à-dire s'adapter aux réalités. Dans l'exemple que prenait Marie tout à l'heure, c'est s'adapter à la perte de la mère, comme ça dans un accident de voiture, et c'est un traumatisme monumental. Et il faut bien que le psychisme de cette adolescente s'adapte. Et là, notamment en refoulant, parce que on ne lui a pas donné suffisamment l'occasion de dire ce que ça lui a fait, ce que ça lui fait d'avoir perdu sa mère. Et là, dans l'exemple que je prenais moi, sûrement qu'il n'y a pas eu la possibilité pour cet homme de pouvoir parler, s'exprimer sur la violence qu'il voyait à l'œuvre chez lui quand il était enfant, du fait de l'alcoolisme et de la violence de son père. Et il n'a pas pu faire autrement, semble-t-il, alors qu'il a critiqué son père, que de reprendre à son propre fait, finalement, cet alcoolisme et cette violence.
Et ben voilà, donc, on va dire, c'est l'épreuve de vérité de la verbalisation. Peut-être c'est ce qu'on pourra retenir de cette manière que vous proposez d'arriver à gérer cette violence fondamentale, pour reprendre le terme de Jean Bergeret, qui ferait partie de notre vie, apprendre à la nommer, à en prendre conscience, et puis à la nommer et après la dialoguer, si je puis dire. Allez, Mario de Binet, en une minute, votre dernier livre, Pour le meilleur, paru aux éditions Confession des Béatitudes.
Eh bien, justement, il reprend 170 situations de vie conjugale, certaines avec justement cette agressivité ou cette violence et les conflits. En tout cas, c'est surtout un livre plein de richesses, de pépites du quotidien qui concernent tous les couples pour le meilleur, pour que la vie de couple soit de plus en plus belle.
Eh ben, merci beaucoup à vous et rendez-vous est donné donc dans à peu près 2 mois pour une autre émission Vie de couple, Vie de famille. Un grand merci. À la technique, Christophe Aubry, vous pourrez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.